dessous de l'infox. Adrien Delgrange.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bonsoir à toutes et à tous. Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'infox.
RFI.
Avec au sommaire cette semaine la guerre en Ukraine et l'élection présidentielle française. Deux sujets sur lesquels se penche notre invité, David Chavalarias, auteur du livre Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. Au sommaire également, un général américain capturé par les Russes. Une fausse information relevée par notre confrère de l'AFP factuel, Marin Lefebvre. Et puis enfin, dans la manière de raconter la guerre en Ukraine par la Russie, cela devient presque systématique. Quand l'armée russe est suspectée d'un massacre, Moscou retourne l'accusation contre les Ukrainiens. C'est ce que nous analyserons avec Grégory Genevrier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, les Dessous de l'Infox, réalisés par Hélène Avril. David Chavalarias est donc l'invité cette semaine de l'émission Les Dessous de l'Infox. Il est, je vous le disais, l'auteur du livre Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions aux éditions Flammarion. Mathématicien, directeur de recherche au CNRS, il est aussi à l'origine du projet Politoscope. Politoscope est un outil qui permet d'obtenir une cartographie très précise de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et en particulier chez les militants. Au micro de Sophie Malibaud, David Chavalarias commence par nous dire ce qu'il a observé lors de ce premier tour de l'élection présidentielle en France.
Ce scrutin confirme d'une certaine manière ce que l'on observe depuis 5 ans dans cet outil Politoscope, qui est un observatoire donc de militantisme en ligne, qui est que le centre de gravité des débats s'est déplacé des partis traditionnels et de centre qui étaient LR, LREM et Les Républicains vers les partis les plus extrêmes que sont LFI et surtout les nouveaux partis que sont Reconquête et autour de Florian Philippot, les Patriotes et Dupont-Aignan. Donc on a vu ce déplacement et en fait c'est ce qui effectivement s'est traduit dans les urnes avec une extrême droite très forte, France Insoumise très forte, Macron très forte et tous les autres partis très faibles. La surprise qu'on a pu avoir par contre, c'est le fait donc d'avoir un score d'Éric Zemmour très bas alors que tous les médias avaient battu ses idées en brèche pendant plusieurs mois, qu'eux-mêmes réclamaient qu'ils étaient à 20%, etc.
Et qu'ils étaient très forts sur les réseaux sociaux.
Et ils étaient effectivement très forts sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une demi-surprise pour nous parce qu'on sait qu'ils ont utilisé beaucoup de méthodes d'amplification en ligne qui leur a permis de paraître plus gros qu'ils n'étaient, notamment des techniques qu'on appelle astroturfing, donc démultiplier les comptes ou l'activité. Mais si on regarde, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'en fait, cette stratégie-là, au niveau de l'extrême droite en tant qu'orientation politique, a été gagnante. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, c'était le Front National qui avait une énorme communauté en ligne. Une grosse partie de cette communauté, dès septembre, on l'a vu bouger vers la communauté d'Éric Zemmour, mais ça a permis à Marine Le Pen de garder une situation en retrait et de ne parler que des sujets consensuels, à Éric Zemmour de faire passer les thèmes traditionnels de Marine Le Pen dans l'opinion et forcer les médias à s'en occuper, et à la communauté autour de Florian Philippot de récupérer tout un tas de comptes qui étaient plutôt anti-vax, opposés au confinement, en gros anti-système, sur des thèmes non politiques, que maintenant il est en train de réorienter de manière politique vers un vote Marine Le Pen.
Comment on explique que les grands partis classiques ne soient pas aussi actifs sur les réseaux ?
Les partis classiques mettent moins de moyens sur les réseaux numériques pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont plus accès aux médias traditionnels et donc ressentent moins l'urgence d'aller sur les réseaux sociaux. L'autre, c'est que ce que l'on constate, c'est que des techniques qui sont des techniques d'amplification artificielle de la présence sont déployées par des partis extrêmes et beaucoup moins par des partis plus modérés. Enfin, il y a peut-être une troisième chose, c'est que le discours, typiquement qui est les discours des extrêmes, est un discours très anxiogène, hostile, négatif en général, et que du fait de la structure des réseaux sociaux, c'est ce discours-là qui circule le plus vite et le plus facilement sur ces genres de réseaux.
Mais parce que c'est un petit peu la thèse que vous défendez dans ce livre Toxic Data, David Chavalarias, vous expliquez que les algorithmes ne sont pas neutres.
Alors tout à fait. Ce qui circule sur les réseaux sociaux est le fruit à la fois d'une diffusion par les humains, mais du relais par les algorithmes, c'est-à-dire ce que chacun voit dans son, par exemple, son fil d'actualité, le résultat d'un calcul algorithmique qui permet de trier parmi la masse d'informations qui est dans votre entourage social ce que l'on va vous montrer. Et en fait, ce tri n'est pas du tout neutre. Ce tri est effectué en fonction de critères économiques. Et un des critères économiques, c'est le nombre d'engagements, le nombre d'actions des individus sur un contenu particulier. Il se trouve que les contenus qui sont les plus hostiles, les plus polémiques, les plus anxiogènes sont ceux qui génèrent le plus d'activité.
Pourquoi ?
Il y a un certain nombre de raisons, mais notamment il y a des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont des biais psychologiques humains, qui est qu'on a naturellement tendance à être attiré par des contenus qui représentent une forme de menace ou de danger. Quand vous avez deux contenus, un qui est plutôt positif, un qui est plutôt négatif, le biais fait que vous avez plutôt tendance à cliquer ou à regarder ce genre de contenu. Et comme les environnements numériques apprennent de vos actions, ils apprennent que c'est ce genre de contenu qui vous attire et donc va vous en resservir plus, ce qui a pour effet d'amplifier en fait la proportion de contenus polémiques, négatifs, hostiles dans votre environnement social en ligne.
Aux dernières élections présidentielles en 2017, on avait noté à un moment donné du moins l'ingérence étrangère et notamment venant de la Russie. Est-ce qu'il y a des signaux ou pas du tout cette fois-ci ?
Effectivement, il y a eu beaucoup d'ingérence étrangère en 2017, sous plusieurs formes d'ailleurs, hein, à la fois amplification, à la fois fausse nouvelle, à la fois fuite de documents, les Macron Leaks. Pour cette campagne, ce que l'on observait, c'est qu'il y avait beaucoup de comptes qui ont des comportements un peu étranges, au sens où une très très forte activité, vraiment plusieurs 50-100 tweets par jour pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, des thèmes qui sont des thèmes de relais en fait des hypothèses de théorie du Kremlin, des théories complotistes.
Comme par exemple
le fait qu'il faut les éléments de langage sur l'Ukraine, ou il faut dénazifier l'Ukraine, ou le fait qu'il y a des armes biologiques en Ukraine et qu'il fallait en fait intervenir pour éviter que l'Ukraine s'en serve. Tout ce genre de discours en fait que le Kremlin a disséminé pour justifier son invasion. Et ce que l'on a pu observer notamment, c'est que d'une part, il y a donc un certain type de comptes qui sont présents sur tous les conflits sociaux. Donc ils vont intervenir sur le conflit corse, sur le conflit en Guadeloupe, sur le problème de Omicron, sur le problème de l'Ukraine, etc. etc. On a en gros quelques milliers de comptes qui sont communs à tous ces événements-là, qui créent de l'agitation. Et aussi, c'est des comptes qui vont basculer d'une thématique à l'autre de manière très rapide. Et donc, par exemple, dès qu'il y a eu l'invasion en Ukraine, il y a tout un ensemble de comptes qui, avant, parlaient uniquement du vaccin et du scandale autour du confinement, de l'obligation vaccinale, etc., qui sont immédiatement commencé à relayer les thèses du Kremlin. Donc, ces comptes-là, on n'a pas la garantie que c'est des comptes opérés par le Kremlin, mais au minimum, ce sont des comptes français qui ont été endoctrinés d'une certaine manière par les médias comme Sputnik, RT, etc., et qui après continuent à avoir un discours anti-système et plutôt pro-Kremlin, anti-OTAN.
Donc vous êtes très à charge contre la big tech, contre tout ce système économique qui est entre les mains de sociétés multinationales très puissantes. Quelle est la parade collective contre les abus, contre la menace que ça peut constituer vis-à-vis de la démocratie ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les espaces numériques que régit actuellement la big tech sont des espaces complètement dérégulés. Il n'y a aucune règle sur, aucun contrôle sur comment circule l'information, qu'est-ce qui est censuré, qu'est-ce qui est amplifié. Et c'est un petit peu comme au début de toutes les nouvelles technologies, hein, par exemple au début de l'aviation, certainement que les espaces aériens étaient peu régulés, puis après on s'est mis à les réguler. Et donc il y a des parades très simples, il y a une parade qui vient du côté de la législation, donc là je parle de parade collective au niveau des institutions, qui forcerait en fait la Big Tech à ouvrir leurs algorithmes quand il y a un risque systémique. Donc l'analyse que je fais, c'est de dire, quand vous avez des entreprises qui régissent la circulation d'informations à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire qui concernent plusieurs dizaines de pourcents de la population, ces entreprises deviennent systémiques, c'est-à-dire qu'elles impactent le système entier. Une entreprise systémique correspond à un risque systémique. Ça veut dire que si elles font des erreurs dans la manière dont elles régulent l'information, et on sait qu'il y en a eu, par exemple avec les fuites de France Haugen, qui a montré que Facebook avait fait des erreurs et avait amplifie en fait l'hostilité en ligne. Donc s'il y a des erreurs, ça peut avoir donc un impact sur la vie démocratique et même des mouvements sociaux. Et donc il faut que la puissance publique ou des autorités indépendantes soient capables d'auditer ce genre d'algorithme et cette circulation d'informations de manière à émettre des recommandations, voire des contraintes s'il y a danger. Donc ça, c'est une première piste.
Mais pour l'instant, ils ne se laissent pas faire.
Alors pour l'instant, ils ne se laissent pas faire, mais ils ne se laissent pas faire aussi parce qu'on les laisse ne pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'État, en théorie, il peut tout faire. Hein. L'État, c'est la représentation de l'ensemble des citoyens et peut décider de manière très, très, très forte, imposer des contraintes sur son territoire.
Alors, d'ailleurs, les dictatures le font.
Les dictatures le font.
Mais alors justement, ça pourrait nous faire tomber dans le camp des dictatures.
En fait, non, justement, parce que, par exemple, ce qu'on oppose souvent à ça, c'est de dire, vous voulez réguler la Big Tech, c'est contre la liberté d'expression. Mais en fait, si on réfléchit, c'est le concept de liberté d'expression ne se pose absolument pas sur la Big Tech, parce que liberté d'expression, ça veut dire que chacun a le droit de s'exprimer et que la parole va diffuser sans inégalité. Or, quand vous êtes en ligne, vous ne savez absolument pas comment y amplifier telle ou telle parole. Et la Big Tech la module. Donc en fait, tant qu'il y a une opacité sur la manière dont circule l'information, en fait, on ne peut plus parler de liberté d'expression. Donc là, il ne s'agit pas de contraindre ce qui circule, il s'agit de forcer à plus de transparence sur comment ça circule et d'identifier ce qu'on peut faire par la science, en fait, les points qui risquent de porter atteinte à la démocratie dans les choix qui sont faits sur cette circulation.
Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Vous êtes optimiste ?
Je suis plutôt optimiste parce que, d'une part, c'est nécessaire autant pour la démocratie que pour les big tech elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'une big tech dans une dictature, ce n'est rien. Par exemple, en Russie, le Kremlin est allé frapper à la porte de Google en disant « cette application, vous l'interdisez ». Au début, ils ont refusé. Ils disent « très bien, on vous met en prison ». Donc, ils ont accepté. Donc, si vous voulez, la Big Tech n'a pas intérêt à se retrouver en dictature. Donc, il faut une nécessaire coopération entre les États démocratiques et les Big Tech qui déploient leur système là-dessus. Donc, je suis plutôt optimiste de ce côté-là. Et je pense aussi qu'il y a un défaut de compréhension en fait, de l'effet des environnements numériques sur la société, notamment du côté de la Big Tech, parce que c'est par leur rôle tellement de faire la recherche sur l'impact du numérique sur les réseaux sociaux et sur le tissu social, mais qu'au fur et à mesure où on comprendra, alors il y aura des pistes qui seront à la fois acceptables pour elles et pour les États pour implémenter en fait, de nouveaux systèmes.
Merci à David Chavalarias, auteur du livre « Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions » aux éditions Flammarion. David Chavalarias répondait aux questions de Sophie Malibo. Et nous accueillons à présent Marin Lefebvre. Bonsoir Marin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Et aujourd'hui, Marin, vous revenez sur la guerre en Ukraine et plus précisément sur une infox concernant un soldat de l'OTAN.
Un prétendu général américain, Roger L. Cloutier, qui aurait été capturé par les Russes à Mariupol, cette ville portuaire de l'Est de l'Ukraine assiégée par Moscou. Selon plusieurs publications partagées plus de 300 fois en quelques jours, ce militaire se serait retrouvé pris dans un camp des nazis d'Azov. Le régiment Azov est en effet au cœur d'une guerre de propagande entre Kiev et Moscou. Pour certains, c'est une milice néo-nazie. Pour d'autres, elle se compose de héros ukrainiens. Ce régiment a été fondé par des militants d'extrême droite, mais il fait aujourd'hui partie de la garde nationale du pays. Il s'est déidéologisé, selon plusieurs experts, même s'il continue d'alimenter des fantasmes, comme on le voit justement avec cette nouvelle fake news.
Alors justement, quelle est la situation de ce général Roger Cloutier ?
Alors, vous vous en doutez peut-être, mais cette rumeur est complètement infondée. Le militaire ne se trouve pas sur le front russo-ukrainien, mais en Turquie, à plus de 1200 km du port de Mariupol. Depuis août 2020, il dirige le commandement allié opération terrestre de l'OTAN, basé dans l'extrême ouest du pays, à Izmir. Roger L. Cloutier n'est d'ailleurs pas général, mais lieutenant-général, selon sa biographie disponible sur le site internet de ce même commandement.
Il est donc tout de même un haut gradé de l'OTAN. Comment avez-vous pu vous assurer qu'il ne se trouvait pas en Ukraine ?
Nous avons pu contacter le grand quartier général des puissants alliés en Europe de l'OTAN, aussi appelé SHAPE, situé en Belgique. Il a confirmé avoir connaissance de rumeurs circulant en ligne au sujet de la capture en pleine activité militaire de Cloutier à Mariupol. Des affirmations entièrement fausses selon ce quartier général. Roger L. Cloutier s'est rendu pour la dernière fois en Ukraine, je cite, « en juillet 2021 pour mener des discussions au sein de l'état-major terrestre à Kiev afin de renforcer le partenariat de l'OTAN avec les forces courageuses et compétentes du pays. »
Marin Lefebvre, l'AFP Factuel, avez-vous pu relever d'autres preuves pour compléter ces déclarations ?
Oui, quelques jours avant de circuler en français en Afrique, la rumeur de la capture du lieutenant général a été partagée en anglais, sur Twitter et sur Facebook. Le 5 avril, soit deux jours après les premiers tweets dans cette langue à ce sujet, Roger L. Cloutier a posté sur sa propre page LinkedIn une photo de lui en plein discours lors d'un événement de l'OTAN à Izmir. Et le lendemain, en réponse à un internaute qui lui parlait des rumeurs de sa capture justement par les Russes sous cette photo, il a commenté qu'elles étaient complètement fausses. La même photo du militaire a par ailleurs également été publiée par la page Facebook certifiée du commandement allié terrestre à date du 5 avril.
Enfin, la capture d'un commandant de l'OTAN par les Russes, c'est une infox qui, si elle apparaît véridique, peut profiter à Moscou.
Bien sûr, elle s'inscrit dans une dynamique plus globale de la désinformation entourant le conflit. Le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, a en effet coïncidé avec un boom des partages d'infox, notamment pro-russes, par de nombreuses pages panafricanistes sur les réseaux sociaux. Les angles d'attaque sont récurrents. Défendre la légitimité de l'invasion de l'Ukraine et montrer la supériorité militaire de la Russie. D'ailleurs, parmi les fausses informations traitées par l'AFP en Afrique francophone depuis le début de la guerre, Une écrasante majorité d'entre elles vont dans ce sens.
Merci Marin. Marin Lefebvre de l'AFP, factuel pour Radio France Internationale. Et pour la chronique des dessous de l'Infox, nous accueillons Grégory Genevrier. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Plus aucun train ne part de la gare de Kramatorsk pour évacuer les civils de la région.
Et cette semaine, vous revenez sur ce bombardement en Ukraine. C'était la semaine dernière sur la gare de Kramatorsk où plus de 52 civils sont morts alors qu'ils tentaient de fuir la ville. Alors cela devient maintenant systématique quand l'armée russe est suspectée d'un massacre. Moscou retourne l'accusation contre les Ukrainiens, ainsi rendus coupables d'assassiner leur propre peuple. Mais comme pour Boutcha, Grégory, la version russe sur Kramatorsk ne tient pas.
Oui, vendredi dernier, aux alentours de 10h30, deux missiles Tochka-U viennent frapper la gare de Kramatorsk dans le Donbass, là où s'étaient massés des civils en train de fuir la région. Les premières images des femmes et des enfants tués ce jour-là soulèvent l'indignation dans le monde entier. Moscou est directement pointé du doigt. Mais à 14h20, la commission d'enquête de la Fédération de Russie est catégorique. Ce sont les forces armées ukrainiennes qui seraient à l'origine de cette frappe. Moscou parle d'une nouvelle provocation des nationalistes ukrainiens. Tout l'argumentaire de Moscou repose sur le fait que ces missiles Tochka-U ne seraient pas utilisés par l'armée russe, mais seulement par les Ukrainiens.
Alors dites-nous, Grégory, ce qui permet d'infirmer cette version des faits.
En réalité, les Russes possèdent également ce type de missile lors d'exercices conjoints avec la Biélorussie avant l'invasion russe. Le ministère de la Défense russe ne s'en cachait même pas. La chaîne de télévision Zvezda, sous la tutelle du ministère de la Défense russe, diffuse le 15 février des images montrant justement des tirs de missiles Tochka-U. D'autres images circulent aussi sur TikTok où l'on assiste fin mars au passage d'un convoi de véhicules russes qui sont des lanceurs de missiles Tochka-U.
Et à l'inverse, dites-nous ce qui pousse à désigner Moscou.
Eh bien, il y a déjà le discours russe lui-même. Juste après l'attaque, des comptes Telegram pro-russes revendiquent le bombardement. Ils déclarent que la frappe a tué plusieurs militaires ukrainiens. Mais c'est à partir du moment où ils s'aperçoivent que les victimes sont des civils qu'ils décident de se rétracter. Certains suppriment tout bonnement leurs publications quand d'autres basculent dans le récit officiel de Moscou. Autre élément accablant, jeudi dernier sur Telegram, soit la veille du bombardement, un canal pro-russe conseille sans aucune justification à ceux qui quittent Kramatorsk de ne pas partir en train. Le lendemain, un quart d'heure avant l'attaque, la même source renouvelle son avertissement, je cite, « Une nouvelle fois encore, je tiens à me répéter, éviter l'évacuation par le train ».
Alors comment se propage le narratif russe sur les réseaux sociaux ?
Aujourd'hui, ce sont des infox qui servent à propager la version russe. L'exemple parfait, c'est ce reportage soi-disant diffusé par la BBC ce mercredi, qui a notamment été repris par une télévision d'État russe. Alors cette courte vidéo, elle affirme que la carcasse d'un missile retrouvé sur place appartient bien à l'armée ukrainienne, sans apporter aucune preuve. Mais en réalité, la BBC n'a tout simplement jamais diffusé ni produit ce reportage. Le format, le logo ou encore le texte, tout est manipulé pour tromper les spectateurs. La BBC a rapidement pris des mesures pour faire retirer cette vidéo qui était devenue virale sur les réseaux.
Et pourtant, malgré les nombreux démentis, les accusations du Kremlin à l'égard de l'Ukraine circulent abondamment.
Oui, même retirée de la circulation, la fausse vidéo siglée BBC laisse des traces. Plusieurs internautes s'y réfèrent pour affirmer la culpabilité de l'Ukraine. C'est un récit notamment abondamment partagé par l'extrême droite pro-Poutine, à l'image de l'ancien conseiller, par exemple, de Marine Le Pen, Émeric Choprade, qui tweet son souhait de voir les Ukrainiens, je cite, « répondre de crimes de guerre ». C'est tout l'art d'inverser les accusations et de faire passer les victimes pour les bourreaux.
Grégory Genevrier pour la chronique des Dessous de l'Infox. Merci Grégory et à la semaine prochaine. Ainsi se referment pour cette semaine les Dessous de l'Infox, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de nous avoir écoutés. Une émission à retrouver, à partager grâce à nos applications et sites internet. Merci à Florence Ponce pour la coordination, réalisation Hélène Avril. Et quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox.